Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Au bout de la plume sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du livre La faïencerie retrouvée. Pour cela, nous recevons Claude Brossier, auteur de ce livre. Alors, Claude Brossier, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Déjà, quel est votre parcours, notamment votre parcours professionnel ?
Eh bien, mon parcours professionnel, j'ai été pendant quelques années professeur et puis pendant de longues années coordonnateur d'un centre de formation professionnelle et puis après, donc, chef d'établissement scolaire.
Et quelle est justement votre formation de base ?
Formation industrielle, on va dire.
Alors sinon, vous avez écrit un livre. Dans un premier temps, comment vous êtes mis à l'écriture ?
Eh bien, dans un premier temps, je ne me suis pas mis à l'écriture. J'ai commencé par toute une phase de recherche qui a duré plusieurs années. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait dommage que le grand public ne puisse pas bénéficier de ces recherches, d'où l'écriture de ce livre.
Et justement, quel est le sujet abordé dans votre livre ?
Eh bien, le sujet est très ciblé puisqu'il s'agit à Bonnétable, une commune à une trentaine de kilomètres du Mans, d'un centre faïencier, d'une manufacture, je peux dire aussi d'une usine puisqu'elle s'appelait comme ça à l'époque, la Villa Duron, située en plein cœur de la forêt de Bonnétable.
Et en effet, votre livre s'appelle « La faïencerie retrouvée ». Comment vous avez choisi ce titre ?
Alors, je ne l'ai pas choisi directement. C'est un travail qui a été effectué avec mon éditrice, édition La Concrète, à Paris. Donc, ça a été un long cheminement. Et puis, nous sommes arrivés à ce titre, La faïencerie retrouvée, en passant avant par La faïencerie oubliée et d'autres titres. Et puis, finalement, c'est ce titre qui est resté, qui correspond bien, puisque donc, centre faïencier. Et puis, retrouvé, parce que la mémoire collective l'avait beaucoup, beaucoup oublié.
Et justement, pourquoi écrire sur la faïencerie ?
À la base, une passion. Une passion pour la faïence, une passion pour la céramique. C'est un domaine infini. Il y a beaucoup de passionnés dans ce domaine. Alors bien sûr, on ne peut pas tout connaître, puisque je viens de dire c'est infini, hein, que ce soit les centres en France, en Europe ou ailleurs. Et puis, cette passion, petit à petit, s'est focalisée sur ce centre.
Et concrètement, comment elle est née justement, votre passion ?
Eh bien... comme on dit souvent, par le petit bout de la lorgnette. À savoir, il y avait eu, je crois, avant les années 2000, parution d'un ouvrage, Les faïences du Perche. Donc, il était question de différents centres. Il était question un petit peu de Bonnétable. Il y avait une illustration d'une paire de pichets qu'on appelle Jacques ou Jacqueline. Et un peu plus tard, quelques années après, début des années 2000, il y a eu en Sarthe la parution d'un gros livre aux éditions de la Renette, Potier et faïencier de la Sarthe. Donc là, il y a de très nombreux centres qui étaient, bien sûr, évoqué, dont Bonnétable, et là on commençait à entrevoir la partie artistique de ce centre. Donc là, le point de départ est d'un côté sur le côté édition, le côté ouvrage, et puis d'un autre côté, la passion étant là, on discute toujours bien sûr avec d'autres personnes, et puis les deux se sont rejoints un jour.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire, notamment l'histoire de cette faïencerie retrouvée ?
Oula, bon, je vais essayer d'être bref. C'est une faïencerie qui a ouvert en 1832. Au cœur de la forêt de Bonnétable, je disais, la forêt de Bonnétable est très vaste, 1200 hectares. À côté de Bonnétable, en allant vers la Ferté-Bernard, une forêt traversée à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, traversée par trois grandes allées, et au centre, cela formait une étoile à six branches. Aujourd'hui, cette forêt existe toujours, bien entendu, c'est une forêt fermée, donc on ne peut pas y aller. Donc la faïencerie, la Villa Duron, a été créée par la duchesse de Montmorency, qui a construit dès le départ une grande manufacture. Sa volonté était, en 1832, lors de l'ouverture, de donner du travail à beaucoup de personnes de Bonnétable qui n'en possédaient pas. Bonnétable, à l'époque, avait une taille beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, puisqu'il y avait plus de 6000 habitants. La duchesse de Montmorency a fait œuvre de charité en construisant cette grande manufacture. Dès le départ, les années qui ont suivi, il y a eu des prix pour donc récompenser la production et on va dire une vingtaine d'années plus tard, dans les années 1850, il y a eu jusqu'à 150 personnes employées. Donc ça n'avait rien à voir avec nombre de petites poteries que l'on pouvait trouver partout sur le territoire. Je pense à Prével puisque c'est juste à côté, mais il y en avait bien d'autres. Hein. Imaginez jusqu'à 150 personnes.
Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire sur cette faïencerie de Bonnétable ?
Eh bien, parce que ça, c'était donc le résultat, le fruit de mes recherches. Mes recherches qui se sont donc concentrées sur la Villa Duron. J'avais découvert effectivement qu'il y avait une production de poterie utilitaire, de vaisselle utilitaire. Bon, ça, rien de transcendant, rien de passionnant. Et puis, à côté de ça, le grand écart, là, donc, production d'une faïencerie, d'une faïence artistique de grande qualité. Et ça a interpellé. Donc, les recherches se sont déroulées pendant plusieurs années. Et puis comme je le disais, donc ça a débouché sur l'écriture de ce livre.
Et qu'est-ce que justement la faïence ou la faïencerie ?
La faïence, eh bien la faïence est une partie de ce qu'on appelle le grand domaine des céramiques. Hein. On peut trouver des céramiques, on peut trouver des porcelaines, on peut trouver des grès, des faïences. On va résumer ça par les arts de la terre et du feu. Donc deux domaines très intéressants, puisque on est beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de développement durable, etc. Mais on n'a rien réinventé en ce qui concerne ça, puisque depuis des siècles, on produit des poteries, des faïences, etc. Les arts de la terre, eh bien, avec une terre qui bien souvent est originaire, on va dire, du secteur là où on va fabriquer donc après les objets. À Bonnétable, c'était le cas, mais c'était le cas à Malicorne et bien d'autres endroits. Donc on extrait l'argile, on la travaille, etc. Et puis quelques temps après, eh bien, on peut fabriquer des objets, quels qu'ils soient, utilitaires ou pas. On les laisse sécher. Et une fois que la forme sèche, eh bien, ça va être la première cuisson. Première cuisson aujourd'hui, ça se réalise dans un four électrique, bien entendu. À l'époque, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça n'existait pas, c'était des fours à bois. On pourra y revenir. Là, on est à la première cuisson. Ensuite, bien souvent, il y a une protection qui est mise sur ce biscuit, parce que le biscuit par lui-même est poreux, donc ne peut pas tenir à l'intérieur un liquide. Donc il y a un émail qui est apposé sur ce biscuit, et donc soit immédiatement une deuxième cuisson ou un décor qui est apposé sur cet émail et donc la deuxième cuisson derrière.
Alors sinon, comment justement s'est passée l'écriture justement de ce livre, La faïencerie retrouvée? Des recherches, il me semble, ont été faites.
Oui, beaucoup de recherches, donc des recherches qui se sont échelonnées sur 5 années. Tout d'abord, grâce à Internet. Internet n'aurait pas existé 20 ans plus tôt, 25 ans plus tôt, ces recherches auraient été totalement impossible. J'ai fait des recherches aux archives départementales, dans différents centres, effectivement. Mais le travail de l'image, ça c'est grâce à Internet. Des recherches dans le monde entier, bien sûr en France, mais également en Europe, en Angleterre et puis aux États-Unis. Donc ces recherches ont été longues puisque ça s'apparente à une enquête policière. Le point de départ était relativement restreint, ça c'est ce qui était connu, mais derrière il y avait beaucoup de choses à découvrir et il reste beaucoup de choses à découvrir encore. Ces recherches, comme je le disais, qui s'apparentent à une enquête policière, eh bien des hypothèses étaient émises, certaines d'entre elles ont été vérifiées, d'autres non, et puis j'ai avancé comme cela petit à petit et la base restreinte s'est étoffé au fil du temps et c'est ce qui a conduit à ce qui est dans cet ouvrage aujourd'hui.
Et combien de temps un petit peu justement pour toutes ces recherches?
Alors, je parlais de 5 ans de recherche, ça englobe l'écriture du livre. Ces recherches m'ont permis d'avoir une grosse documentation technique et je m'étais dit, j'en souris encore aujourd'hui, une fois cette documentation réunie, je me disais bon, l'écriture du livre va être facile, j'ai plus qu'à choisir dans cette documentation technique. Eh bien, je m'étais un petit peu trompé. Il y a eu un travail énorme au niveau de l'écriture du livre. Tout d'abord, toute la première partie pour planter le décor, entre guillemets. Planter le décor, la Villa Duron, son histoire, géographie, études économiques, enfin bon, de manière la plus large possible. Et puis après seulement, là j'ai pu reprendre les éléments que j'avais dans toute ma documentation technique, mais derrière, il y avait beaucoup de choses à faire, dont avec l'éditrice, la mise en page, parce que ça a été un travail énorme. La photographie, je n'étais pas parti sur une piste pour faire les photos, mais la Covid étant passée par là, eh bien, il y a eu un changement. J'étais avec un photographe professionnel et le rendez-vous était pris au mois d'avril 2020 lors du premier confinement. Donc, tout est tombé par terre et de là, donc, une autre option.
Oui, en effet, un livre qui est illustré, c'est un vrai choix d'avoir choisi justement de proposer des photos dans ce livre?
Bien sûr, puisque là, ça s'adresse au grand public. Bien sûr, ça englobe les passionnés au niveau de ce domaine de la faïence, mais plus largement au niveau du patrimoine. Et puis pour faire découvrir la production, il n'y a pas d'autre choix que l'image.
Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement cette faïencerie retrouvée? Pourquoi elle est tombée dans l'oubli?
C'est une bonne question. Elle a fermé en 1912. En 1912, pour des raisons économiques. Le centre n'était pas viable depuis déjà assez longtemps, donc ça a été un choix qui a été fait au niveau du duc de la Rochefoucauld. 1912, nous étions presque à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale est arrivée. Nombre d'hommes de bon étable, comme ailleurs, sont partis à la guerre. Et puis, une fois la guerre terminée en 1918, c'était déjà pour partie tombé dans l'oubli. N'oublions pas, et ça nous a rappelé cela, l'épidémie de Covid. À l'époque, 1918-1920, c'était l'épidémie de grippe espagnole. On arrive au début des années 20, 8 ans, 10 ans après la fermeture, c'était déjà oublié. Et en plus, la quasi-totalité des bâtiments, où il y avait un bâti énorme, puisqu'il était sur 3 hectares, la quasi-totalité des bâtiments a été rasée. Donc c'est tombé dans l'oubli assez rapidement. Et puis n'oublions pas, je le disais, c'était situé au cœur d'une grande forêt. Donc non visible sur à partir des axes de déplacement autour de cette forêt.
Et justement, qu'avez-vous découvert au travers de vos recherches? Est-ce que vous avez eu des surprises?
Oh oui, je ne m'attendais pas à trouver certaines pièces qui sont référencées dans ce livre. J'imaginais bien une production artistique de belle facture, mais pas autant en termes de qualité et de diversité. Malicorne, beaucoup d'auditeurs connaissent Malicorne en Sarthe, puisqu'il y a toujours deux faïenceries. La production est de grande qualité, mais la diversité de ce qui a été produit à Malicorne au fil des dizaines d'années, je devrais dire des siècles, puisque ça a été créé en 1747. La diversité de ces pièces, à mon avis, n'est pas aussi importante que ce qui a pu être produit à bon étable en termes de diversité. Des pièces de très très grande qualité dans le domaine des pendules, des horloges, des instruments de musique, de l'ameublement, et j'en passe. La diversité est infinie. L'inventaire n'est pas terminé, bien entendu, il y a encore des choses à découvrir. Et ça, c'est vraiment l'une des choses qui m'a le plus surpris, le plus étonné. Des pièces parfois de très grandes dimensions, dans les quelques, alors je vais pas dire archives, je devrais dire plutôt rumeurs rapportées. Il se disait qu'il y avait des vases de presque un mètre de haut qui avaient été produits. Oui, mais ça c'était l'arbre qui cachait la forêt. En fait, il y avait des pièces de grande facture, des pendules de 85 cm de haut. Effectivement, des vases exceptionnels. Et c'est tout cela qui a été, je dirais, ma surprise. Et puis, la qualité des pièces produites. Je disais tout à l'heure, les feux de bois, les fours à feu de bois. Aujourd'hui, fours électriques contrôlés, et c'est parfois encore la mauvaise surprise lorsque le four est ouvert. Imaginez, à l'époque, au 19e, début 20e, des fours avec du bois, pas de contrôle de température, il y avait beaucoup de casse. Pour certaines de ces pièces qui sont sorties, il y en a eu d'autres qui ne sont jamais sorties et qui ont rejoint ce qu'on appelait les tessonnières à l'époque. Hein. Donc beaucoup de casse due à des températures de chauffage qui n'étaient pas régulières, et puis aussi le travail de la matière qui n'était pas forcément aussi contrôlé qu'il ne l'est aujourd'hui.
Oui, donc toute l'histoire, bien sûr, de cette faïencerie au sein de ce livre. Comment on peut le qualifier, justement, ce livre ?
C'est un livre qui touche le patrimoine. D'ailleurs, l'éditrice l'a référencé dans Collection Patrimoine. C'est un domaine qui est très vaste. En Sarthe, on a un patrimoine qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et bien là, c'est une page complémentaire de ce patrimoine qui est redécouverte. D'ailleurs, le conseil départemental de la Sarthe m'a soutenu au niveau de cet ouvrage.
Et justement, pourquoi lire ce livre ?
Eh bien, pour toute personne quelque peu curieuse, pour découvrir une page intéressante, alors je vais pas redire de notre patrimoine, mais de notre histoire locale, puisque pendant 80 ans, cette manufacture donc a créé de très beaux objets, a fait vivre de nombreuses familles sur le secteur. C'était un acteur économique important sur le territoire.
Et où peut-on acquérir justement ce livre ?
Alors, plusieurs possibilités. En Sarthe, 3 librairies, on va dire largement autour de Bonnétable. Mamers, la maison de la presse, place Carnot. La Ferté-Bernard, la librairie Papyrus. Et puis au Mans, la librairie Thuard. Donc là, au niveau librairie. Et puis, vous êtes éloigné d'une librairie ou si vous n'êtes pas en Sarthe, eh bien, tout simplement, donc en m'écrivant sur une adresse mail dédiée, faïence au singulier, .bonnetable@orange.fr.
Alors, suite justement à ce livre, est-ce que vous avez des projets en perspective ?
Oui, d'autres projets dans des domaines un peu plus éloignés. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais j'ai encore beaucoup de choses qui tournent autour de la faïencerie de Bonnétable, puisqu'il reste des choses importantes à redécouvrir ou à découvrir tout court. D'ailleurs, depuis quelques mois que mon livre est publié, ça m'a permis d'avoir des contacts pour aller plus loin et faire de nouvelles découvertes.
Et on peut dire justement déjà un bon retour sur ce livre qui a été édité.
Oui, pour moi, c'est une belle aventure, une belle surprise. Je l'attendais quelque part. Le travail au niveau des relations presse, bien entendu, c'est important. Là, ça a été le point de départ avec mon éditrice. Donc, que ce soit la presse écrite, la presse, donc, au niveau des médias radio, télé, c'est extrêmement important parce que derrière, ça m'a permis de faire connaître cet ouvrage, d'être invité au Salon du Livre au Mans le 1er et 2 octobre, Salon National, de tenir des conférences. Il y en aura une autre, je ne peux pas donner la date, mais qui se déroulera, je pense, dans les premiers mois de l'année qui vient, l'année 2023, en Sarthe, je peux pas en dire plus. Voilà, donc ce sont toutes des retombées positives, et puis ça permet de faire de belles connaissances.
Un mot à ajouter.
Ce livre, quelque part, je l'attendais, je sais pas si c'est le bon qualificatif, je discutais depuis des années avec des passionnés de ce domaine, qui connaissaient ce centre, et je disais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de livre consacré à ce centre. Bien sûr, à cette époque-là, les recherches que j'ai conduites n'existaient pas. Et puis, on va dire que ce sont les surprises de la vie, les hasards de la vie qui m'ont permis un jour d'arriver sur la publication de cet ouvrage.
Alors, Claude Brossier, je vous remercie. J'espère qu'à travers notre échange, on aura donné envie à nos auditeurs d'acheter ce livre sur la faïencerie retrouvée afin, bien sûr, de découvrir l'histoire de ce centre de Bonnétable. Je vous dis à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.